Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Michel de Rostolan, assisté de Bénédicte, diffusé en direct lundi 9 novembre 2015, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi, de 16h à 17h30, mardi 10 dans la nuit, de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver au lendemain de cette journée si réussie organisée par Radio Courtoisie avec ce déjeuner qui a rassemblé beaucoup de personnalités, beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie. Soyez félicités de votre participation nombreuse à cette manifestation de la culture et de l'amitié. J'ai choisi de vous offrir aujourd'hui une émission sur le thème Tour d'horizon géopolitique. En fait, ce sera une invitation adressée à vous-même, chers amis auditeurs, pour vous inciter à poser des questions à mes invités, qui sont respectivement Bruno Gollnisch, député français au Parlement européen, André Pertusio, conseiller honoraire du commerce extérieur de la France et membre de la Société française de géopolitique, et André Pozokoff, également consultant et membre de la Société française de géopolitique. J'ai choisi effectivement de traiter de géopolitique parce que nous sommes à l'aube de cette grand-messe planétaire, et je mets le terme de planétaire dans un sens qu'on lui donne actuellement, à l'égard duquel je serai assez caustique, qui s'appelle le COP21, qui parlera ou qui fera semblant de parler du climat, mais en réalité c'est un rassemblement des ministres des Affaires étrangères et de leurs chefs d'État et de gouvernement, qui vont discuter des affaires du monde, on sait ce que ça donne, voilà. La géopolitique est omniprésente dans mes émissions actuellement, puisque la dernière fois, vous en rappelez, j'ai invité Artem Studennikov, qui est le nouveau ministre conseiller de l'ambassade de Russie, en compagnie de colonel Corvez et de Yvan Blot, et la fois prochaine, au début du mois de décembre, j'inviterai madame Metrofanova, qui est ambassadeur extraordinaire de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO, pour évoquer la nécessité d'un rapprochement culturel entre la France et la Russie. J'ai choisi de traiter de géopolitique, c'est parce que véritablement la position de la France est particulièrement piteuse, de plus en plus piteuse, avec un ministre des Affaires étrangères que nous subissons et qui est d'une médiocrité rare. Nous regrettons évidemment les Roland Dumas, les Hubert Védrine, les même Villepin, qui avait un certain panache dans son discours de l'ONU, du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a l'impression que la France disparaît sur le plan international, alors que les événements se multiplient. Les raisons du choix de cette émission, du thème de cette émission, Tour d'horizon géopolitique. À mes côtés, indépendamment de Bruno Gollnisch, André Pertusio et André Posokoff, à mes côtés, bien sûr, Bénédicte, mon assistante fidèle assistante, et puis celui par lequel je commence chacune de mes émissions, mon invité permanent, bien sûr, vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine. Et j'ai choisi comme fable de La Fontaine aujourd'hui une fable que je peu connue, qui s'intitule Le corbeau voulant imiter l'aigle. Ça rappelle peut-être un peu, le corbeau serait peut-être la France et l'aigle peut-être la Russie ou une des nations importantes sur le plan géopolitique, peut-être, mais enfin, écoutez, je vous en donne lecture. L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton, un corbeau, témoin de l'affaire et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne alentour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche de Dieu. Gaillard corbeau disait, en le couvant des yeux, « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant, à ces mots il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage. Outre que cet oison était d'une épaisseur extrême et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage, bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend aux voleraux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Voici ce merveilleux Jean de La Fontaine. Je vous tenais à vous offrir cette fable qui ne manque pas de sel. C'est le moins que l'on puisse dire. Avant d'ouvrir la discussion avec mes invités, je vais évoquer un calendrier d'activités à venir, en essayant de respecter l'ordre chronologique. À signaler que, sous l'égide du Club de l'Horloge, devenu le Carrefour de l'Horloge, se tiendra un colloque, une des rencontres du Carrefour de l'Horloge, sous le thème « Patrie et liberté » à la Maison de la Chimie, le samedi 14 novembre prochain, de 10h à 18h, avec de nombreuses personnalités, Charles Bec Bédé, François Billot de Lochner, Éric Branca, Yvan Blot, Christian Arbulot, Henri Desquin, Julien Rochedy, Christian Van Est. Le mercredi 18 novembre prochain, le Cercle Renaissance que j'anime organise un dîner amical avec une communication de notre sympathique Roger Saboureau. Roger Saboureau est le secrétaire général du Secours de France, est un ancien officier parachutiste en Algérie et est également, vous le savez, patron d'émission à Radio Courtoisie. Il traitera du thème « Les événements contemporains à la lumière de l'histoire de la France en Afrique du Nord ». Ce sera le mercredi 18 novembre prochain. Si vous désirez vous inscrire à ce dîner, il y a encore une dizaine de places. Vous pouvez contacter le Cercle Renaissance 138 rue de Tocqueville, Paris 17e. Téléphone 01 42 27 48 22. Site internet cercle renaissance en un seul mot .info. Le samedi 21 novembre, l'association Présence de la Varande organise une communication de maître Henri Bocher sur le thème « La place du notaire dans l'œuvre de la Varande ». C'est une merveilleuse association, cette présence de la Varande, qui était présidée jusqu'à présent par Henri Bocher, qui est maintenant présidée, je crois, par Patrick Delon. Ce sera le samedi 21 novembre prochain, à 14h30, salle Saint-Louis, maison paroissiale Saint-Léon, 11 bis place du Cardinal Hamet, à Paris 15e. Le jeudi 19 novembre, il y aura la projection débat du film M et le troisième secret, enquête sur le troisième secret de Fatima, le 19 novembre à 20h, en présence du réalisateur Pierre Barnérias. Ce sera au cinéma Le Lido, 70 avenue de la République, à Saint-Maur-des-Fossés, 94-100. Voici donc pour le jeudi 19 novembre. Et puis le vendredi 27 novembre prochain à 20h30, dans le cadre des activités du Forum de la France chrétienne, il y aura une conférence de Xavier Moreau, ancien officier parachutiste, analyste géopolitique, entrepreneur français résident à Moscou, sur le thème « Ukraine-Russie, la stratégie de Vladimir Poutine ». Cette conférence se tiendra à 20h30 le 27 novembre, 9 rue Bergère, Paris 9e. Pour vous inscrire à cette soirée, vous téléphonez au 06 20 35 55 48. À signaler que le lendemain, samedi 28 novembre, il y aura la vente de charité de l'église de Notre-Dame de Consolation. Notre-Dame de Consolation se trouve rue Jean Goujon à Paris 8e, 23 rue Jean Goujon. Je vous en donne le téléphone, 01 43 80 46 93. Et cette signature de livre se tiendra donc le samedi 28 novembre de 11h à 18h, avec notamment, parmi les auteurs, Jean Raspail et Michel de Jagère, ainsi que Odile de Lacoste-Larémondi. Ce sera à la fois le samedi 28 novembre et le dimanche 29 novembre. Et puis, le même jour, le 29 novembre, notre excellente amie Anne Brassier organise sa traditionnelle signature de livre qui s'intitule « Lire sous les sapins ». Ce sera salle Chasseloup, 64 avenue Théophile Gautier à Paris 16e, dans l'église, métro Église d'Auteuil, le dimanche 29 novembre, lire sous les sapins, avec des signatures notamment de Philippe de Villiers, Rénal Sécher, Béatrice Bourges, Marion Sigaud, Stéphanie Bignon, Char et bien d'autres auteurs entendus sur Radio Courtoisie. Voici donc ces riches activités des temps à venir. À signaler, mais d'ores et déjà, je précise que les inscriptions sont closes. Il y aura également le dîner amical de Noël du Cercle Renaissance le mercredi 9 décembre, trois jours après ma prochaine émission, avec précisément cette dame ambassadeur de Russie auprès de l'UNESCO qui remettra le prix Renaissance des Arts à Alexandre de la Cerda, critique d'art, écrivain, consul honoraire de Russie à Biarritz. Et cette manifestation, ce dynamical de Noël, la salle est déjà remplie de participants. À signaler, chers amis auditeurs, et cela, j'en suis persuadé, fera grand plaisir à nombre d'entre vous, à signaler, je vous l'annonce en avant-première, que le prix Renaissance 2016, c'est-à-dire le principal prix littéraire du Cercle Renaissance, sera remis le Mardi Gras, le mardi 9 février à Roger Olyndre pour son ouvrage 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnies, ça suffit, point d'exclamation. Et ce prix lui sera remis par le révérend père Jean-Paul Argouarche. Donc d'ores et déjà, chers amis auditeurs, vous qui avez une dette de reconnaissance envers Roger Olyndre ou pour le moins d'émotion à raison de son patriotisme dont il a fait montre tout au long de son existence, eh bien retenez, écrivez sur votre agenda cette date du mardi 9 février prochain. Ce sera une soirée à ne pas manquer. Nous abordons maintenant le thème de notre émission de ce jour, tour d'horizon géopolitique, et je m'adresse directement à Bruno Gollnisch. Cette fable de La Fontaine tout à l'heure ne manquait pas de mordant, comme à l'accoutumée. Mais ce spectacle extérieur à la France, spectacle de cette ébullition de tous côtés, n'est pas sans susciter des interrogations, des discussions, des affirmations, des questions des auditeurs certainement. Tout à l'heure, en venant au Radio Courtoisie, je passais en voiture devant l'ambassade de Russie et j'ai vu le nombre de bouquets de fleurs qui étaient déposés devant l'ambassade de Russie par compassion pour les victimes de cet avion qui a disparu, qui a été abattu dans le Sinaï, vraisemblablement du fait d'une bombe. En tous les cas, il y a une revendication d'Al-Qaïda à ce sujet, ou de Daesh, je ne sais pas. Cher Bruno Gollnisch, parlez-nous un petit peu des interrogations que vous vous posez actuellement.
Bien, je dois dire de façon un peu présomptueuse que j'ai davantage de certitudes que d'interrogations. Encore que, il me semble que les événements actuels vérifient nos analyses. Ce mouvement migratoire qui vient d'un peu partout, il faut bien le dire, était parfaitement prévisible. Il a été prévu d'ailleurs, notamment par Jean-Marie Le Pen, il y a plus de 40 ans. La conjonction de l'explosion démographique dans le sud, du déclin démographique dans le nord, car la nature a horreur du vide dans ce domaine comme dans les autres, produirait un jour un phénomène de vase communicant en quelque sorte, qui serait évidemment aggravé par la pauvreté des pays du Sud, laquelle n'est pas seulement d'ailleurs une pauvreté structurelle. Ça ne vient pas simplement des conditions naturelles, du climat, ça vient aussi des séquelles d'une décolonisation bâclée, d'une dictature corrompue, d'une gestion qui a souvent été marxisante de la de société qui ne s'y prêtait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un mépris des cultures traditionnelles et d'un refus de prendre en compte précisément ces cultures ou ces faits de nature que sont par exemple les données ethniques hein, dans la vie de ces populations. Et tout cela, évidemment, a produit une paupérisation de ces sociétés. Et là, nous voyons des mouvements de gens qui viennent chercher ce qui leur paraît comme un Eldorado, dans la mesure où la planétisation des communications eh bien, montre en permanence au fin fond de l'Afrique ou de la savane ou de la jungle, que sais-je, ou de l'Amérique latine ou de l'Orient, eh bien, des modes de vie qui peuvent paraître comme absolument idylliques à ces malheureux. Par conséquent, tout ça était parfaitement prévisible, mais rien n'a été prévu, rien n'a été fait, et je dois dire que le désarroi actuel est quand même très significatif. Alors on me dit d'ailleurs, mais que faut, oui, tout ça c'est très gentil, mais que faut-il faire? Je pense qu'il faut quand même d'abord tirer un peu un bilan des responsabilités.
Alors précisément, ces responsabilités, cher Bruno, nous avions, André Pertusio dans ce studio s'en souvient certainement, nous avions organisé à deux reprises des émissions sur le thème « Les responsabilités historiques des désordres contemporains » et nous faisions allusion notamment, il y avait en particulier Sixte de Beaubon-Parme qui était présent, nous avions fait par exemple allusion au fait que la volonté de Clémenceau de détruire ce cœur catholique de l'Europe qui était l'Empire austro-hongrois, et nous en payons aujourd'hui également les conséquences dans d'autres domaines. Alors vous avez dit à l'instant, Bruno Gollnisch, vous avez dit « La nature a horreur du vide », vous évoquiez les problèmes de dénatalité, c'est vrai, mais on pourrait également évoquer les problèmes de religion. Lorsque l'Occident chrétien abandonne ou tout au moins nie ses racines chrétiennes, est-ce que ce n'est pas favorisé l'émergence ou le renforcement de religions qui lui étaient extérieures géographiquement? Voilà.
C'est certain que l'islam est aujourd'hui une religion prosélyte dans ses diverses manifestations.
Et est-ce que d'une façon plus générale,
quand je vois beaucoup de nos compatriotes qui se plaignent de la construction de mosquées mais qui ne mettent jamais les pieds dans une église, ouais, je leur dis que ce sont des phénomènes inéluctables, si du moins ils ne réagissent pas, bien sûr, c'est évident. Alors, il y a cela, il y a aussi un phénomène qui m'inquiète. Moi, j'étais en octobre aux États-Unis, en Californie, où je connaissais un peu la partie est des États-Unis, mais je n'avais jamais mis les pieds à l'ouest. C'est évidemment très impressionnant.
Un État qui connaît le référendum d'initiative populaire.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est très impressionnant de voir quand même dans cette fameuse Silicon Valley les véritables empires qui ont été édifiés par ces sociétés Microsoft, Apple, Google, etc. Et ça me fait penser quand même que dans ces endroits où l'on rencontre d'ailleurs des milliers de personnes, de chercheurs, jeunes, de toute nationalité, on y parle beaucoup chinois d'ailleurs, hein, ça m'a frappé, on produit, on consomme en France des millions de logiciels. Tout se fait sous Word ou sous Excel, quoi, aujourd'hui pratiquement. De matériel également, de micro-ordinateurs, de chaînes-fi, de lecteurs de CD, de DVD, de téléviseurs, de tout ça. Il n'y a plus un seul de ces éléments qui se fabriquent dans notre pays. Et ça, je trouve que c'est une situation de dépendance très inquiétante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est l'empire, depuis quand même le relatif effacement de l'Union soviétique, enfin, qui s'est désagrégé, relatif effacement par conséquent de la Russie, qui revient dans le jeu. Je pense que mes collègues en parleront mieux que moi, mais les États-Unis sont devenus la superpuissance dominante. Et le manifeste avec un certain cynisme, je reviens sur un sujet qui m'est cher, à savoir la véritable spoliation à laquelle il a été procédé par les institutions américaines de 9 millions de dollars, je crois, 7 milliards d'euros. C'est une somme absolument faramineuse, absolument faramineuse.
Vous allusion à l'affaire de la BNP ?
L'affaire de BNP Paribas, et ceci sans aucune protestation des autorités françaises, ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire à M. Hollande publiquement quand il est venu au Parlement européen promettre notamment que le nouveau traité de partenariat transatlantique serait assorti de garanties. Je lui ai dit, mais vous parlez de garanties, mais vous n'avez même pas élevé la moindre protestation publique quand une banque française, BNP Paribas, a été spoliée ainsi de 9 milliards.
Il fallait faire payer indirectement Paribas le fait d'avoir été la banque de Saddam Hussein pour BNP Paribas de New York, pour avoir hébergé les montants très importants de pétrole contre nourriture. Derrière cette affaire, il y a évidemment une vengeance à l'égard de BNP Paribas.
Oui, mais et comme ceci... la juridiction américaine s'est étendue, n'est-ce pas, sur le fait que la banque ait eu des relations financières avec un certain nombre d'États étrangers qui étaient sous embargo américain. La prétention des États-Unis d'Amérique à imposer cet embargo sur le plan mondial est extravagante, parce qu'il s'agit là d'une banque française, et les agissements qui étaient en cause, ça n'était plus BNP New York, c'était une filiale genevoise. Alors, pour les juristes qui font un peu de droit international privé, quel est le fondement de la compétence américaine, si ce n'est qu'ils s'octroient une compétence dès lors qu'une transaction est libellée en dollars, ce qui devrait susciter un certain nombre de réactions. Et comme ces réactions ne sont pas venues, eh bien maintenant c'est le Crédit Agricole qui va passer au tourniquet. Exactement. C'est la Deutsche Bank, et mes bons collègues du Parlement européen, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient UMP, républicains, faisant partie du groupe démocrate chrétien, qui n'est pas très chrétien, et sans doute démocrate quand même, mais j'ai pas eu l'occasion de le vérifier, mais n'élève pas la moindre protestation. J'ai posé une question au Conseil européen, j'ai posé une question à la Commission européenne, qui m'ont répondu fort courtoisement que ça ne les concernait pas, qu'ils n'avaient pas été saisis du problème. Je trouve ça absolument stupéfiant.
Nous avons connu cela en d'autres temps à l'Assemblée nationale de la part de la droite dite républicaine.
Oui, absolument. Absolument.
Alors, je me tourne vers André Pozokov.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose
concernant
la Silicon Valley ? Effectivement, il y a dans la Silicon Valley, en Californie, beaucoup de chercheurs jeunes qui sont étrangers. Il y a beaucoup de Français. Il y a dans toute la Californie des associations de polytechniciens, de centraliens dans toutes les grandes villes américaines. Et effectivement, ces gens-là sont partis et probablement ne reviendront pas. Je voudrais citer la monographie rédigée par Jean-Paul Gourevitch, qui est un démographe bien connu et qui dit que chaque année, il y a évidemment des Français qui partent à l'étranger, 285 000, mais d'autres qui rentrent, 205 000. Il y a donc un solde de 80 000 personnes, Français, qui partent et qui partent dans un esprit de départ définitif. C'est une perte de substance humaine, parce que ce sont souvent des gens jeunes, compétents, actifs, mais qui ne veulent plus payer de l'impôt, qui, s'ils veulent créer une entreprise, ne veulent pas être ensevelis sous les normes, etc. C'est absolument dramatique. On parle de l'immigration, il faut également parler de l'expatriation.
Absolument.
Nous perdons les bacs plus 5 et nous gagnons les bacs moins 5.
Voilà.
Ce qu'on appelle une transfusion sanguine.
Tout à fait. Nous perdons de la compétence et nous voyons arriver des gens, dont certains sont diplômés d'ailleurs, mais nous voyons arriver des gens la misère du monde. Mm-hmm. C'est Nicolas Bavrez qui l'a dit.
Eh oui, non mais... André Pertugio, est-ce que vous avez quelques remarques?
Bavrez a découvert le problème de l'immigration. C'est formidable.
Écoutez, vous parliez d'un miracle.
C'est
un
miracle.
Oui, oui, absolument.
Ah bah, tout vient à point qui sait attendre.
Mon cher André Pertugio.
Oui, je reprendrai ce dont parlait à l'instant Bruno Gollnisch. Et je suis en train, dans un autre cadre, de me livrer à une étude. Je dois même écrire. Ça m'est très difficile pour l'instant, mais je vais quand même rédiger, n'a pas cet ouvrage, et sur l'hégémonie américaine, ou la volonté hégémonique américaine, et l'évolution du droit international, qui est un... Et c'est en effet, n'a pas, comme le dit très justement Bruno Gollnisch, nous avons affaire à un pays qui se situe en dehors des normes internationales, en dehors des droits internationaux. Et je rappelle une des citations d'un spécialiste en la matière, qui est le professeur Charles Hoggbeam, disant que le style même américain est incompatible avec le droit international, puisqu'il place au-dessus leurs propres valeurs, dit-il, et leur propre système, leur système moral, leur système de pensée, leur système politique, qui va naturellement coïncider toujours avec leurs intérêts matériels.
C'est ainsi qu'ils sont à l'origine du tribunal pénal international, dont ils refusent, au demeurant, l'autorité.
La compétence, oui.
La compétence, par conséquent, pour eux-mêmes.
Lorsqu'ils votent, par exemple, des sanctions contre la Russie, qu'est-ce qui leur donne le droit de voter des sanctions contre la Russie ou contre n'importe qui? Non, ils estiment qu'ils sont, eux, en mesure de voter des sanctions, qu'ils en ont le droit, parce qu'ils sont les États-Unis d'Amérique.
Cette affaire de droit international, mon cher André Pertugio.
Voilà, le droit international.
Permettez-moi de venir un peu sur ce sujet, parce que c'est un sujet brûlant en ce qui concerne la Syrie.
C'est un sujet brûlant, bien évidemment.
En ce qui concerne la Syrie, l'intervention américaine comme l'intervention française ne répondent pas aux exigences du droit international.
Absolument
pas. Il n'y a aucun accord avec l'État légalement en place, qui est l'État dirigé par M. El-Assad, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. El-Assad, peu importe. Seule la Russie, actuellement, se trouve dans une situation qui répond au droit international.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est justement, comme je viens de le dire, les États-Unis se sont toujours mis au-dessus du droit international. Le droit américain... Et les intérêts américains l'emportent sur le droit international, mais ils le pensent vraiment. Ils sont imbus depuis toujours. C'est ce que a commencé déjà à dire en 1834 O'Sullivan avec sa destinée manifeste. Nous sommes toujours dans le même état d'esprit répété par tous les présidents des États-Unis et qui s'est achevé par une déclaration très nette et rapide du président Richard Nixon lorsqu'il a dit « Dieu veut que l'Amérique dirige le monde ». Point. Tout est dit.
Au moins, il y avait une référence à Dieu.
Ah, mais il y a toujours la référence à Dieu.
Oui, mais nous ne la connaissons plus en Europe.
C'est vrai.
Je me tourne vers André Posokoff.
Et cela leur donne, à leurs yeux, la légitimité pour intervenir dans les affaires intérieures. Et en France, il y a deux éléments. Il y a évidemment la French American Foundation, qui est un dispositif d'influence des politiques français. On peut citer des grands noms, Juppé, Fillon, etc. Et puis il y a l'action de l'ancien ambassadeur américain Rifkin en France, qui consiste à disposer dans les banlieues des agents d'influence de façon à attirer aux États-Unis des représentants des banlieues, je ne vais pas plus loin dans la dénomination de ces gens-là, afin de préparer une prise sociale et politique importante de ces gens-là en France. Il y a donc une action d'influence extrêmement importante qu'il faut dénoncer, parce qu'il s'agit d'un acte plus que politique, il s'agit d'un acte quasiment de guerre. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles Poutine, en Russie, a tenu à empêcher l'influence des ONG qui, pour la plupart, dépendent des États-Unis.
Tout à fait.
C'est cette action de l'ancien ambassadeur américain ne saurait être trop dénoncée. C'est une ingérence inadmissible qui, bien entendu, est admise.
Bruno Gollnisch, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette évocation du droit international et de cette, le fait que les États-Unis sont...
Je ne suis pas l'ennemi du peuple américain. Personne autour de cette table ne l'est, mais il est certain que, je pense, la responsabilité principale incombe à nos gouvernants. Qui devraient émettre les protestations, voire les mesures de, comme disent les anglo-saxons, retaliation, c'est pas de riposte, de réponse appropriée. Alors, par exemple, c'est ce que fait Poutine d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'une loi vient d'être adoptée par la Douma, par le Parlement russe, qui permet éventuellement de s'affranchir du principe de l'immunité dont disposent les États pour éventuellement faire des saisies de biens publics étrangers se trouvant sur le territoire russe. Vous savez que, en principe, les États jouissent d'une immunité totale. Par exemple, s'il y a un organisme public relevant d'un État qui se trouve en France, qui fait des dettes, on ne peut pas l'attraire devant les tribunaux français. Immunité de juridiction, ni le condamner, lui envoyer d'huissier, ni saisir ses comptes. Voilà, immunité d'exécution. Bon, c'est le principe du droit international, dont une des manifestations est évidemment l'espèce d'extéritorialité dont bénéficient les ambassades. Bon, les Russes ont compris qu'à partir du moment, après tout, où les États-Unis saisissaient des fonds publics russes, eh bien, il devait se mettre en demeure de faire la même chose. Je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'a à la fois rempli d'allégresse, c'est que j'ai trouvé extraordinaire, par exemple, comme ça, au Parlement européen. C'est quand, vous savez que l'Union européenne, à la remorque, là encore, des États-Unis d'Amérique, a publié une liste de personnes qui sont interdites, de Russes qui sont interdits de séjour, interdits de voyager. Alors c'est tout à fait absurde, d'ailleurs, parce que cette liste comprend notamment des diplomates, des ambassadeurs. Bon, alors si on veut régler un problème, notamment le problème de l'Ukraine, il faudra bien qu'on discute. Bon, mais on peut plus faire venir les gens qui seraient en mesure de discuter avec nous. Bon, très bien. Ça a duré un certain temps, ça a duré un certain nombre de mois. Et puis, la Russie vient d'en faire autant. Vient de publier une liste de personnalités politiques anti-russes qui sont plus autorisées à mettre les pieds en Russie jusqu'à nouvel avis. Je crois qu'il y a même Cohn-Bendit dans le lot, des gens comme ça. Bon,
Leroux, je crois.
Et Leroux, enfin.
Leroux, oui. Le socialiste.
Oui, oui, absolument. Alors, au Parlement européen, c'était des protestations. Comment? Mais c'est abominable. C'est contraire au droit international. On nous a servi ça. C'est très vilain, c'est très méchant. C'est encore, bon, une véritable voie de fait. Enfin, je trouve que la naïveté de mes collègues est absolument stupéfiante. Ils s'imaginent appelés à donner au monde entier des lois, des normes, des règles, des principes, à faire absolument ce qu'ils veulent, et ils sont très étonnés quand on leur rend l'appareil. C'est assez curieux. Je me souviens comme ça, d'ailleurs, à propos de l'ambassadeur américain qu'évoquait M. Pozokov, je crois qu'aux élections de 2002, d'un débat où j'étais avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui se déclarait hostile à la politique du Front National, etc., parce qu'il était, lui, partisan, lui, ambassadeur, enfin, son gouvernement, les États-Unis, étaient partisans de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. C'est quand même... Mais c'était dit avec une fraîche
naïveté.
Oui. Grandeur absolument extraordinaire. Enfin, comment vous voyez, nous sommes pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est quand même à l'Union européenne d'en décider. C'est pas aux États-Unis d'Amérique de tirer des traites sur l'Union européenne. J'ai dit, mais écoutez, monsieur l'ambassadeur, ça tombe bien, parce que moi, je suis pour le fait que le Mexique devienne le 52e ou quelque chose comme ça.
Récupérer le Texas.
État des États-Unis, et que par conséquent, la frontière entre vos deux pays soit complètement ouverte à l'immigration mexicaine. Oui, je dois dire que c'est vrai qu'il y a ce problème latino, hein, dans le sud-ouest des États-Unis. Ben, là encore, on voit que par la pression démographique, par la simple pression démographique, le Mexique est en train de récupérer l'Arizona, le Nouveau-Mexique, comme le nom l'indique,
oui, oui.
Une partie de la Californie, en tout cas. Et il y a des endroits maintenant, ou du Texas,
oui, Texas.
Et il y a des endroits maintenant, d'ailleurs, où il faut que tout soit en bilingue, hein. Parce qu'il y a un certain nombre d'immigrants qui ne parlent pas l'anglais, puis qui ne paraissent pas tellement aptes ou désireux de se l'assimiler.
Tout dans le sud-ouest des États-Unis est bilingue, hein, oui. Systématiquement.
Voilà.
Je dirais même que même à l'aéroport de Miami, oui. L'espagnol a cours au même titre que l'anglais.
Enfin, oui. Et les douaniers blonds aux yeux bleus parle espagnol.
Alors, cher André,
et créole d'ailleurs aussi,
cher André
Pertusio, haïtien.
Oui. Cher André Pertusio, une question qui n'a rien à voir avec le sujet dont nous parlons aujourd'hui, mais qui vous concerne, vous, personnellement, historiquement, parce que, il faut le rappeler, vous avez été l'un des premiers résistants en France et vous aviez en particulier été l'un des organisateurs de cette manifestation du 11 novembre 40 à l'Arc de Triomphe. Et l'un des auditeurs qui connaît votre parcours, dont il faut vous féliciter, pose la question suivante. Savez-vous pourquoi les Allemands ont libéré les manifestants du 11 novembre 1940 ?
Pardon, quelle est la question ?
La question, savez-vous pourquoi les Allemands ont libéré les manifestants du 11 novembre 40 ? Demande un auditeur. Je pense que c'est par intelligence, parce qu'il s'agissait de jeunes gens.
En fait,
il y a eu des blessés quand même.
Il y a eu à peu près, on compte, 2000 manifestants. Est-ce que c'est un petit peu trop ? Est-ce que c'est pas assez ? Moi, je crois que l'on est dans la norme. Il y avait des étudiants, mais il y avait aussi beaucoup de lycéens. Ce que nous, étudiants, ne savions pas, parce que ça se passait dans les murs d'un lycée. Et il y a eu donc beaucoup de monde. Lorsque les Allemands, la police française est intervenue, la première, et a fait 1100 contrôles d'identité sans aucune arrestation. Lorsque les Allemands sont intervenus, bon, je décrirai pas l'atmosphère, les voitures essayant de nous regrouper vers le centre alors qu'on essayait naturellement de nous évader, ne pas parler rue à droite et à gauche. En tout, nous avons eu, je crois, 123 ou 125 des nôtres qui ont été arrêtés.
Oui.
Et ils ont été internés à la santé ou au cherche-midi. Bien. Ils y sont restés 3 semaines. Bien évidemment, les facultés ont été fermées. Il y a eu interdiction de circuler au quartier latin pendant tout ce temps-là. Et puis, je crois qu'il y a eu certainement une négociation avec le gouvernement français. Parce qu'au fond, il n'y avait pas grand-chose, n'a pas à reprocher à ces jeunes gens ou à nous, excepté d'avoir enfreint un ordre qui était à la fois allemand, puisqu'ils avaient interdit toute manifestation à l'Arc de Triomphe le 11 novembre pour des raisons faciles à comprendre, et cet ordre avait été naturellement répercuté par le recteur et qui avait fait une circulaire, n'a pas dans le même sens. Bon, après tout, le crime n'était pas bien grand. Il n'y a pas eu trop de blessés, il y en a eu très peu. Notre ami Lefranc, qui a été ensuite chef de cabinet de De Gaulle et qui a été ancien président de notre association, a été blessé d'une balle à la jambe. Mais je dois dire honnêtement que les Allemands n'ont pas tiré dans la foule. Sinon, c'était un véritable carnage, n'est-ce pas ? Mais alors pourquoi ont-ils été libérés ? Bon, mon Dieu, c'est parce qu'ils n'avaient vraiment aucune raison de les garder en prison. Alors, je crois que c'est ça. Et puis, après tout, leur crime était assez véniel. Et je pense que là, entre les deux gouvernements, on a dû aplanir la chose. Mais qui a, si vous voulez, c'est intervenu à un très mauvais moment, car c'est celui où les Allemands et les Anglais négociaient et que le gouvernement français était très attentif à ne pas se mettre ni les Allemands ni les Anglais à dos, ne sachant pas ce qui allait advenir de ces négociations anglo-allemandes. Et comme nous l'a dit Paul Baudouin, le ministre qui était secrétaire d'État à l'époque et qui est venu nous passer une sorte de savon le 28 novembre, il nous a dit « Messieurs, ce que vous avez fait est très dangereux, vous ne connaissez pas les Allemands. » Et vous pensez que les choses dans la vie sont noires ou blancs, c'est faux, messieurs. Tout est gris. Et il est dit, je ne crois trahir aucun secret, en vous disant qu'au moment où je vous parle, les Anglais et les Allemands se parlent par l'intermédiaire de Stockholm. Et s'ils se mettaient d'accord entre eux, sur le dos de qui croyez-vous que cet accord se ferait? Nécessairement sur le nôtre. Donc il faut être beaucoup plus prudent, etc., etc. Donc il faut replacer les choses, je crois, dans l'atmosphère de l'époque. Et franchement, ils sont restés 3 semaines en prison, j'estime que c'est déjà beaucoup.
Voilà, il faut simplement rappeler qu'André Pertusot, à cette époque-là, était le président de la Corpo de droit. En tous les cas, félicitations André Pertusot. Je crois qu'André Pozakov désirait ajouter quelque chose.
Oui, j'ai vu l'émission récemment à la télévision dernière, oui. Qui concerne justement cette manifestation. Et j'ai constaté qu'il y avait des personnages communistes qui revendiquaient leur participation à cette manifestation.
Oui, mais le sénateur Lederman, en 1981 ou 83, je crois, a même dit que c'était les communistes qui avaient organisé cette manifestation. C'était absolument faux, car à l'époque, les communistes, je dois le dire, collaboraient avec l'occupant et certainement n'ont pas manifesté. Sauf peut-être à titre individuel, il aurait pu y avoir des communistes dans la foule. Ça, c'est très possible. Mais ça n'allait absolument pas au-delà.
Voilà, nous allons refermer cette parenthèse, mais effectivement, qui était suscitée par cette émission la semaine dernière à la télévision, où on a pu voir d'ailleurs notre ami André Pertusot rappeler un peu ce que furent ces événements qu'il a vécu très directement. Nous allons maintenant passer la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est plus que légitime, et d'ailleurs mon souhait était précisément qu'ils interviennent nombreux dans le cadre de cette émission. C'est plutôt une invitation à susciter leurs interrogations. Bénédicte.
Oui, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rosteland, sur le thème « Tour d'horizon géopolitique ». Ses invités sont Bruno Gundisch, député français au Parlement européen, André Pertusot, conseiller honoraire du commerce extérieur de la France, membre de la Société française de géopolitique, André Pozakov, consultant, membre de la Société française de géopolitique. Alors, une auditrice. « Les migrants ne viennent pas pour avoir une meilleure vie, mais souvent pour profiter davantage et imposer leur mode de vie et coutumes. Sur le long terme, bien sûr. Ce sont des conquérants plutôt que des réfugiés. »
On va peut-être regrouper. Non, Bruno, on va regrouper deux ou trois questions.
Un auditeur, que pensez-vous concernant les Américains que leur attitude vis-à-vis du Concorde et très récemment de leur demande d'indemnisation à la SNCF concernant les Juifs transportés par elle? Un auditeur, quels sont concrètement les liens actuels qu'entretient M. Gundisch avec le Japon?
Alors maintenant,
et puis un autre aussi, oui. M. Gundisch, comment voyez-vous la France dans 10 ans? Quel visage aura-t-elle?
Aura-t-elle les yeux bridés?
La dernière question, c'est trop difficile d'y répondre, ou alors il faudrait y consacrer toute une journée, peut-être un colloque, voilà. Je vais donner ma réponse très brièvement, et puis avant M. Pozakov et Pertusot, qui apporteront peut-être d'autres nuances. Les migrants, c'est un phénomène extrêmement divers, hein. Dans les migrants, il y a peut-être effectivement des militants, comme dit la dame. Mais enfin, quand le monsieur ou la dame qui pose la question dit ils viennent pas chercher une meilleure vie, ils viennent profiter, ben ça veut dire chercher une meilleure vie. Hein. Donc, je vois pas tellement quelle est la différence. Non, il y a malgré tout un certain nombre de personnes qui fuient sans doute la misère. Bon, je crois qu'il faut il faut le reconnaître. Alors, il faut traiter le problème différemment. Là, nous en sommes d'accord. Mais enfin, je vais vous donner un exemple. J'étais il y a 2 ans, bon, en Égypte. En Égypte, il y a 90 millions d'Égyptiens. Bon, 90 millions d'Égyptiens qui vivent dans un pays utile qui est grand comme la Bretagne, c'est-à-dire le delta du Nil, et puis une bande sur 1000 kilomètres d'un kilomètre de large ou d'un ou deux kilomètres de large de part et d'autre du fleuve. Et encore pas toujours. Bon, la plupart, enfin un très grand nombre, des dizaines de millions, ils vivent avec $1 par jour. Alors, avec $1 par jour, on arrive à survivre. On arrive à acheter du pain, et puis on se protège du froid avec des couvertures. Bon, parfait. Mais si ça descend en dessous d'$1 par jour, eh bien, à ce moment-là, on meurt de faim. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on reste et on meurt de faim, ou bien on prend sa famille, sa marmaille, et puis voilà, et on essaie de trouver un endroit, et notamment dans ces pays d'Europe occidentale qui sont frappés par la crise économique, mais où l'on sait qu'on ne laisse personne mourir de faim. Voilà. Donc, je crois qu'il faut pas les stigmatiser. De façon systématique. Je pense que les principaux responsables de la situation, ce sont les dirigeants politiques et économiques européens qui ont provoqué d'abord ce phénomène migratoire, qui ensuite ne l'ont pas contrôlé, qui quelquefois en ont profité pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, parce qu'il y a une volonté de porter atteinte à l'identité ethnique de nos nations. Il y a qu'à voir d'ailleurs la polémique Morano, à l'UMP. Bon, ben c'est parfaitement clair. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'affaire du Concorde et de la SNCF, et surtout l'ahurissant procès fait à la SNCF, n'est-ce pas, d'avoir contribué à la déportation des Juifs. Les chemins de fer français étaient requis en cette période d'occupation. Et ce qui est extravagant, c'est que, là encore, nos dirigeants acceptent ce genre de choses et acceptent que la SNCF consigne des centaines de millions d'euros aux États-Unis, qui ne sont pas quand même appelés à gérer ce genre de questions. Mes liens avec le Japon, c'est extrêmement simple. Je suis membre, depuis très longtemps d'ailleurs, de la délégation du Parlement européen chargée des relations avec le Japon. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu des élections européennes il y a un an, et il y a eu ensuite il y a 18 mois maintenant, et il y a eu ensuite des élections également au Japon. Par conséquent, ceci a un peu ralenti nos rencontres, mais nous recevons régulièrement l'ambassadeur du Japon, le consul général du Japon et un certain nombre de personnalités économiques et politiques. Et nous allons recevoir les parlementaires japonais très prochainement, avant sans doute que d'être invités par eux l'année prochaine. Je connais bien la classe politique japonaise et je crois que c'est un pays qui évolue de façon très intéressante. Très intéressante. Voilà. Quant à la France, dans 10 ans, je suis extrêmement inquiet, mais je m'efforce, comme nous tous, je crois, par mon action, de faire en sorte que la situation ne soit pas trop catastrophique.
On pourrait peut-être poser un point d'interrogation devant le terme France dans 10 ans.
Oui, y aura-t-il encore une nation française Bon, bah, écoutez, je crois qu'il faut... À vue humaine, tout ça est assez mal parti, mais il ne faut jamais désespérer.
Absolument.
Notre peuple a toujours trouvé des ressorts. À un moment, généralement, il attend pour ça d'avoir touché le fond. Mais...
Oui. André Pozakov.
Oui, je voudrais citer des articles qui sont parus il y a un certain temps sur F de Souche et cet été sur Polémia concernant une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose et qui est une maladie génétique que l'on dépiste chez les nouveau-nés. Et on ne les dépiste que chez les nouveau-nés de populations non européennes, principalement maghrébines et africaines. Et en France, on ne dépiste que... Et il y a des statistiques, il y a un relevé du taux de dépistage. Ce taux de dépistage est aujourd'hui de plus de 35%. C'est-à-dire que plus d'un tiers des enfants qui naissent en France, aujourd'hui, si l'on se fonde sur ce taux de dépistage, qui n'a nié d'ailleurs par personne, et qui vient d'institutions officielles, plus d'un tiers des enfants qui naissent aujourd'hui sont donc d'origine non européenne. Et les tendances actuelles aboutissent à 50% en 2025. Et en 2025, les tendances actuelles, c'est que 90% des enfants qui naîtront en Île-de-France, seront d'origine non européenne. Alors, il y a un petit bémol qu'il faut introduire, c'est que ce ne sont pas les dom-tom qui ne sont pas significatifs en termes de chiffres. Mais, et bien entendu, il y a aussi là-dedans des gens qui sont d'origine non européenne, mais français depuis très longtemps. Mais... ce n'est pas ça qui change fondamentalement la tendance. Mmh. Le deuxième point, c'est que je suis entièrement d'accord, M. Goldich, avec ce que vous dites. Il ne s'agit pas simplement de lâcheté, de laxisme face à l'immigration et d'incompétence qui sont souvent dénoncées. Il s'agit d'une volonté politique qui a pour origine les prescriptions de l'ONU que l'on peut retrouver dans un autre thème que l'on abordera tout à l'heure peut-être, si vous le voulez bien. Et il s'agit d'une volonté qui est relayée par l'Union européenne et qui fait partie de la politique américaine. Donc il ne s'agit pas simplement de gouvernants incompétents. C'est leur volonté.
Oui.
C'est,
oui.
C'est leur politique, c'est à long terme.
Oui, mais à l'égard de laquelle nous connaissons une veulerie généralisée en Occident.
Absolument.
Oui. Alors, ma chère Bénédicte, vous allez poser encore une série de questions parce que j'aimerais pouvoir écouter les réponses de nos invités.
Une auditrice, je ne crois pas que les immigrés aient été attirés en Europe par la publicité. Mais comme Jean Raspail le faisait dire à ses personnages, lorsqu'il rencontrait les socialistes qui venaient à leur rencontre, c'est « nous qui vous avons fait venir ». Une auditrice, l'Amérique est protestante. Les protestants, c'est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Dieu étant tout puissant, selon les protestants, il est pour l'argent. Un auditeur, Monsieur Gollnisch, comment faites-vous pour avaler toutes les couleuvres qu'on vous fait avaler au Front National aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai l'estomac solide.
Un auditeur, on fait venir des étrangers pour la raison qu'il n'y a pas assez d'enfants en France, notamment. Mais par ailleurs, on pratique l'avortement. Tout cela est bien voulu et organisé.
Oui.
Alors, Bruno Gollnisch.
Rappelez-moi, excusez-moi, la première question, c'était
La première question...
Ah, la publicité. Il y a de tout dans le phénomène migratoire. Une personne qui dit que les gens ne viennent pas à cause de la publicité. Ils ne viennent pas à cause de la... On ne fait pas de la publicité.
Il y a des raisons.
En Europe. Mais il est certain que la diffusion par la télévision, par le téléphone... J'étais récemment observateur pour les élections en Tanzanie. C'est un pays extrêmement pauvre. Enfin, du moins dans certaines franges de sa population, mais beaucoup de gens ont des téléphones portables. Voilà. Donc, ils ont des micro-ordinateurs, ils ont des téléviseurs. Bon, par les téléviseurs, ils voient nos films, ils voient nos chaînes maintenant avec les satellites, ils voient notre mode de vie. Ben, il est certain que quand vous voyez les bas-fonds de Zanzibar, eh bien, le mode de vie européen paraît paradisiaque. Alors, s'il n'y a pas une politique d'ensemble dans les relations avec ces pays-là, dans le contrôle de nos frontières, dans précisément une contre-publicité qu'il faudrait faire, en disant, écoutez, ne croyez pas ce qu'a fait l'Australie, d'ailleurs. Mmh. Ce qu'a fait l'Australie, qui avait les mêmes problèmes que nous en Méditerranée. Et beaucoup de gens se noyaient dans le Pacifique en essayant de gagner l'Australie depuis les Philippines, depuis l'Indonésie, etc. Le gouvernement australien a fait de la publicité, alors là, négative, si j'ose dire, dans les pays d'origine, en disant, écoutez, no way, n'est-ce pas ? Il n'y aura pas de possibilité, que vous soyez en femme, enfant, vieillard, etc., si vous venez illégalement en Australie, vous n'aurez droit à rien, vous ne serez pas autorisé à vivre en Australie et vous ne pourrez jamais devenir australien.
Bon, depuis, il n'y a plus aucun noyer dans les eaux australiennes.
Et depuis, il n'y a plus aucun noyer. Bon, donc... Voilà, donc, mais je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, sur les phénomènes de l'immigration, vous avez eu d'abord une immigration, vous avez eu un certain nombre d'employeurs qui ont pensé que ça coûtait moins cher d'employer des Maghrébins que c'est une partie minoritaire. Ben ensuite, il y a eu le regroupement familial, ce qui n'était pas du tout prévu. Puis il y a des tas de gens qui sont venus sans demander la permission et qui ont été régularisés. Voilà, les motifs des uns et des autres sont extraordinairement divers. Les modalités aussi.
Et il faut souligner l'importance des filières mafieuses, l'importance des organisations de passeurs, le fait que c'est tout un système. À titre d'exemple, un exemple entre des centaines, au Sénégal, on peut vous vendre des kits, des conseils, comment passer les barrières de l'immigration auprès des consulats, puis en France. Vous avez des kits qui peuvent être vendus à la porte des bureaux de la Sécurité sociale dans le café d'en face pour permettre de toucher toutes ces pompes aspirantes que sont toutes les prestations sociales, à un point tel que même les organisations, enfin même les fonctionnaires de la Sécurité sociale en sont exaspérés. Cela figure, ce dernier exemple figure dans les annexes du rapport Tian à l'Assemblée nationale qui parlait de la fraude sociale. Un parti important de la fraude sociale vient justement de ces immigrés, et notamment à cause des filières mafieuses qui ne font pas que organiser les migrations, hein, mais ce sont des sommes colossales. Hervé Jupin parle de centaines de milliards, mais aussi l'organisation du pillage de notre système de sécurité sociale qui ne résistera pas à tout cela.
Alors précisément, d'abord il faut remercier à nouveau Jean Raspail pour son livre prémonitoire, Le camp des saints. Le camp des saints. Et nous connaissons actuellement le camp des saints en Europe avec des chiffres vertigineux qui vont aller d'ailleurs en s'accroissant. On parle de 3 millions de personnes, on parle... mais il y a différentes formes de migration. Alors, il y avait des migrations éventuellement pour cause de guerre. Bon, avec le droit d'asile, bon. Il y a des migrations à caractère économique. Il y a, et j'ai ici André Pertusio, André Bozokov, qui sont des spécialistes de la géopolitique de l'énergie, il y a des migrations qui sont, dont le prétexte serait lié aux sources d'énergie. Et puis, à l'aube de cette grande fête, de cette grande messe planétaire qui s'appelle le COP21, on va découvrir brusquement qu'il pourra y avoir demain une menace de migration climatique. Et bien évidemment, j'imagine que les chefs d'État de ces nations d'émigration, c'est-à-dire d'où les gens partent, vont faire pression sur les pays d'immigration réputés riches pour négocier en quelque sorte les subsides qu'ils recevront pour retenir chez eux leurs futurs migrants dans un contexte de, au prétexte du climat. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Gollnisch ?
Oui, c'est sûr. On peut, d'ailleurs, je crois, moi, qu'il y a un réchauffement climatique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'activité humaine qui en est à l'origine ? Je pense que ceci devrait faire sujet de débat, alors que c'est un dogme. Bon, c'est un dogme, qu'il est maintenant interdit de contester. Monsieur Christian Girondeau, qui avait été honoré par le Cercle Renaissance, à juste titre, qui était polytechnicien, qui est un homme extrêmement compétent, qui a été directeur de la sécurité routière, a fait un livre absolument magistral, qui doit s'appeler Écologie, la fin, si ma mémoire est bonne.
Il vient d'en publier un nouveau.
Et où il montre quand même que, par exemple, le GIEC, c'est-à-dire le groupe...
N'est pas un groupe d'experts, contrairement à ce qu'on dit en France.
N'est pas un groupe d'experts.
Mais simplement de délégués gouvernementaux.
Voilà. Mmh. Ce que je constate, c'est que tout récemment, la semaine dernière, j'étais à l'Assemblée nationale, puisque comme député européen français, je suis invité aux réunions de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. J'ai eu une prise de bec, je dois dire, assez violente avec la présidente de l'Assemblée, la présidente de cette commission. Bon, je vais mettre ça très prochainement sur mon site. Socialiste, Madame Danielle Auroi, lorsque j'ai évoqué l'affaire du patron du service météo de France 2, qui est licencié simplement parce qu'en dehors de son travail, il a publié un livre où, comme M. Girondeau, il conteste la compétence des gens du GIEC. N'est-ce pas, Madame Auroi m'a dit sèchement, c'est pas le sujet. Je lui ai dit, mais si, Madame, c'est le sujet. Taisez-vous, je vous ai pas donné la parole. C'est assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Je trouve qu'une présidente de commission s'autorise des critiques de ce que dit un des parlementaires en lui interdisant de répliquer. Courtoisement, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que c'est évidemment le sujet de la COP21, puisque tous les travaux de cette conférence, cette énorme conférence internationale, sont théoriquement basés sur les conclusions des experts du GIEC. Voilà ce que je peux dire sur cette question.
André Bozokov, puis André Pertusio. André Bozokov.
Oui, donc, M. Gollnisch vient de présenter effectivement la COP21, dont le ressort à l'origine, c'est bien évidemment le réchauffement climatique et l'imputation des activités humaines sur ce réchauffement climatique, ce qui n'est pas certain. Je n'ai pas d'avis sur la question.
Ce qui est tout à fait discuté.
Ceci étant, il y a eu une émission la semaine dernière chez M. Delesquin qui en parlait longuement et qui émettait plus qu'un doute. Tout cela peut déboucher sur des choses assez inquiétantes. C'est tout d'abord la volonté de remplacer toutes les formes d'énergie par des énergies renouvelables. Je vais y venir pour la France. La deuxième chose, ce sont, vous en avez parlé, les migrations climatiques. Alors, c'est une tendance importante de la doxa immigrationniste, c'est de dire, effectivement, il y a réchauffement, donc il y a des populations qui sont touchées par le climat, qui vont émigrer, et pour cela, il doit y avoir deux conséquences. Les pays riches doivent ouvrir leurs frontières, et surtout, il doit y avoir une gouvernance mondiale, c'est-à-dire retrait de la souveraineté des pays concernés, une gouvernance mondiale sous l'égide de l'ONU, hein, il y a des organismes, hein, une gouvernance mondiale des migrations. Bien entendu, nous perdrions, déjà que nous n'avons pas beaucoup, notre mot. Il y a un homme que l'on
qui
voit...
Qui déterminera les quotas, évidemment, par pays.
Et comment ? Il y a un homme qui est connu sur ce thème, que l'on voit souvent, que l'on entend souvent, qui s'appelle Gémen, un Belge, et qui intervient souvent, je l'ai vu en particulier, à une conférence à Sciences Po, chez les anciens de Sciences Po, où ils étaient trois immigrationnistes convaincus avec Benjamin Stora sur la tribune. Il n'y avait personne pour, évidemment, leur opposer une contradiction. La deuxième chose concernant la France, et ça, il y a eu dans l'émission de M. Lesquin une intervention de M. Buttré, président de la Fédération de
l'Envie, lauréat du prix Renaissance,
qui est intervenu pour expliquer à quel point la politique énergétique française qui prône une transition énergétique est complètement incohérente. Alors, je cite simplement, dans la transition énergétique, qui fait l'objet de volumes entiers, hein, mais qui est complètement flou sur la réduction ou non du nucléaire, on dit que le nucléaire va être réduit à 50% de la production d'électricité, alors qu'on en est à 78%. Donc ça veut dire... l'idée, c'est d'arriver à remplacer tout ça par des énergies renouvelables. L'ADEME dit même 100% des énergies renouvelables, 50 000 éoliennes. 50 000 éoliennes, c'est une éolienne à peu près tous les 10 km carrés. C'est-à-dire 3 km sur 3 km. C'est absolument fou. Mais M. Lévy, président d'EDF, vient de déclarer récemment que ce qu'il voulait, c'était non seulement renforcer le nucléaire, mais de surcroît, il voulait relancer la construction de nouvelles centrales, ce qui est absolument inimaginable. Et il y a donc là une incohérence manifeste. La dernière point, c'est concernant les énergies renouvelables. Il n'y a pas que l'éolien comme énergie renouvelable. Il y a le solaire qui est certainement l'avenir. Il y a l'énergie marine avec les hydroliennes. Il y a l'hydrogène. Il y a le stockage de l'énergie. Il y a la biomasse qui peut être importante. Il y a les économies énergétiques. Mais tout ça demande des recherches en cours. Ça demande beaucoup d'argent. Oui. Et actuellement, cet argent est très largement dépensé à construire des éoliennes dont la technologie n'est pas très différente de celle des moulins à vent du Moyen-Âge et même d'avant, et qui surtout, grâce à des subventions...
C'est moins joli.
Oui. Et grâce à des subventions qui sont en fait tirées du consommateur, hein, sur votre facture, la CSPE représente une partie de plus en plus importante, permet de substantiels et de juteux bénéfices à des investisseurs.
Et oui, bien sûr.
Et cela
payé
avec
5 fois
des
plus
matériels
cher.
Qui sont pratiquement complètement, sauf pour le marin, pour les éoliennes marines, sont complètement importés du Danemark, de l'Allemagne et de la Chine. Donc, il y a là un deuxième élément d'une politique qui, au bout du compte, défigurera la France, défigurera notre patrimoine et qui, surtout, va nous coûter abominablement cher pour un rendement... Médiocre, puisque l'éolien, c'est 3% aujourd'hui de l'électricité
française. Cher André Pozakoff, au demeurant, les écologistes devraient être les premiers à combattre les éoliennes, puisque le caractère intermittent des éoliennes, dont il faut rappeler qu'elles marchent à 23% du temps, oblige, pour maintenir la fabrication d'électricité, oblige à recourir au fioul ou au gaz.
Tout à fait.
Ce qui provoque évidemment des émissions de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire que les éoliennes sont l'organisme le plus polluant qui soit.
Lorsqu'on vous dit que l'on met par exemple un parc de 100 mégawatts en place, en réalité c'est 23 mégawatts.
Tout à
Donc
fait.
Le complément, ce sont des centrales, et je complète, non seulement ce n'est beaucoup moins au gaz parce que le gaz est cher, mais c'est au charbon et en Allemagne le lignite.
Alors, il faut remercier l'Allemagne de nous envoyer des particules de charbon grâce à la multiplication des éoliennes et à l'interdiction de l'énergie nucléaire en Allemagne. André Pertusio.
Oui, d'abord, il faut dire une chose dont personne ne parle jamais. Les énergies dites renouvelables ne servent qu'à une seule chose, faire de l'électricité. un point, c'est tout. Elles en font très peu, d'ailleurs, très très peu. Vous n'avez qu'à prendre votre facture d'EDF et vous voyez quelle est l'origine de l'électricité distribuée par EDF. 79% nucléaire, 9,3% hydraulique, l'hydroélectricité qui est la seule énergie renouvelable, vraiment valable et fiable, mais malheureusement la géographie en France rend impossible pas son développement. L'énergie, des éoliennes représente 2,8% de la production d'électricité avec 4600 machines éoliennes.
Qui polluent 30% des paysages français.
Oui. Et le photovoltaïque, 2,1%. Bien. Voilà exactement où nous en sommes. Mais ces énergies renouvelables fonctionnent avec des injections d'argent public considérables, d'une part, et d'autre part, sur votre facture d'EDF, vous trouvez la CSPE, c'est-à-dire une taxe, qui est en fait une taxe éolienne, pour compenser la différence de coût entre l'électricité d'origine nucléaire et l'électricité d'origine éolienne. C'est le contribuable, c'est-à-dire le consommateur qui paye, bien entendu. Alors, tout cela est absolument lamentable. Dans le monde, pourquoi utilise-t-on 86% d'énergie dite fossile, c'est-à-dire charbon, gaz naturel, pétrole? Eh bien, tout simplement parce que c'est indispensable. En France, nous avons réduit cette dépendance à 52% grâce au développement nucléaire, n'est-ce pas ? Mais c'est tout. On ne peut pas aller au-delà. Si vous n'avez pas de pétrole, comment asphaltez-vous les routes ? Comment faites-vous marcher, n'est-ce pas, les automobiles et les avions ? Comment faites-vous des tissus polyester ? Comment faites-vous depuis, n'est-ce pas, les chaises de jardin aux carlingues d'avion ? Comment faites-vous... Enfin, bref, tout ce qui contribue n'a pas à la vie. Ce n'est certainement pas avec des énergies renouvelables que vous allez le faire. Alors, lorsque j'entends parler de transition énergétique, je dois dire que là, mon sang se met à bouillir.
Alors, vous êtes plein d'espoir avec cette COP21, j'imagine. Vous êtes plein d'espoir. Parce que quelle nouvelle taxe ils vont inventer ?
Ah, mais attendez, j'ai entendu à la télévision... un brave manifestant contre Total, accusant Total d'être responsable du réchauffement planétaire. Or, le réchauffement planétaire, il y a des quantités d'ouvrages qui le récusent totalement, notamment un remarquable ouvrage qui s'appelle « Vent de panique », paru il y a déjà quelque temps de Yves Lenoir, qui est un écologiste de la Globule Bleue, où il descend en flammes, n'est-ce pas, toutes ces histoires de réchauffement climatique qui existent peut-être, et dont, depuis une dizaine d'années, paraît-il, il n'y en a plus. Mais... Or, le monde, depuis qu'il existe, assiste à des refroidissements planétaires, à des réchauffements planétaires, sans que personne ne puisse dire pourquoi. L'homme n'y est strictement pour rien, car il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère au XIVe siècle, ni auparavant, ni au XVe.
Le glaciation de Wurm ou le réchauffement
qui a... Pourquoi est-ce que le vin est, comment dirais-je...
Gelé
sur la table du roi à la fin du XVIIe siècle, personne n'en saura jamais rien. Et Claude Allègre, qui est peut-être socialiste, mais qui est quand même un grand physicien, a écrit un livre à ce sujet où il démontre que personne ne sait pourquoi il y a des changements climatiques. On ne sait pas quel est le rôle des taches solaires, on ne sait pas ce qui se passe au centre de la Terre. Quelquefois, il y a une éruption volcanique qui montre qu'il se passe des choses, mais personne ne sait comment tout ça fonctionne. Alors, politiquement, bien entendu, nous assistons à cette campagne absolument extraordinaire qui rend l'homme responsable de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, qui d'une part n'est pas prouvé, qui d'autre part est intermittent, et dont l'homme n'est absolument pas responsable. Car comme le disait très justement Christian Gérondeau, quand vous limitez les émissions de CO2 en Europe... Les Chinois font une nouvelle centrale nucléaire au charbon, et tout ça va dans l'atmosphère, n'a pas et compense très largement les économies de CO2 que l'on peut faire de l'autre côté.
Alors, mon cher André Pertusio, un auditeur pose cette question suivante. Corinne Lepage a déclaré hier qu'elle n'était pas pour une limitation de la liberté de parole, mais qu'il serait bon d'établir un fichier, ça me rappelle quelque chose, un fichier répertoriant tous les gens qui se sont déclarés climato-sceptiques. Méfiez-vous, mon cher André, même si vous avez participé à la manifestation du 11 novembre, vous risquez de figurer sur un fichier de climato-sceptiques. Dixit Corinne Lepage. Enfin,
cela m'est parfaitement égal.
Non, mais qu'on leur demande de compter plus tard quand les catastrophes seront là, même si ça se réchauffe, tout cela fait froid dans le dos, dit ce.
Ça, c'est une façon de lutter contre le réchauffement, ça fait froid dans le dos.
Alors, ben voilà. Si vous voulez, bon, il est paradoxal que dans le cadre d'une émission sur la géopolitique, nous en venions à parler de cette discussion sur le climat, mais nous sommes à l'aube de COP21 et cette réunion dite COP21 recouvre bien des choses, bien des interrogations et qui justifie de notre part bien des suspicions.
Une mise en condition médiatique totale.
Totale,
oui, oui. Donc voilà.
Et d'ailleurs, les dissidents, ils sont traités de la façon dont on vient de parler. Encore une fois, cette affaire de France 2 est absolument incroyable. Incroyable que la présidente de France 2, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait stigmatiser à la fois la présidente de France 2 et puis, je crois, la directrice de. D'e-télévision aussi, qui est responsable des licenciements successifs, je crois, de Ménard et de Zemmour. Voilà. Oui, absolument. Qui a été privé d'antenne sur e-télévision, que je sache. Hein.
C'est invraisemblable.
Contrairement à vous, mon cher André, mais voilà, je pense qu'il y a un réchauffement parce que il y a quand même des indices. Par exemple, la rétractation des glaciers.
Au nord, mais pas au sud, c'est le contraire.
D'accord.
Au pôle sud, c'est le contraire.
Ah oui, d'accord. Ah bon, ça, je ne sais, je l'ignorais, voyez-vous.
André pose
mais à supposer même que d'ailleurs il y ait ce réchauffement, le réchauffement, il a sans doute des conséquences très fâcheuses dans le Sahel, mais il n'en a pas forcément en Sibérie. Il y a quand même des territoires qui vont peut-être devenir exploitables alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent.
Une précision que d'ailleurs André Pertusio a dite, c'est que effectivement, à mes yeux, mais il y a eu réchauffement. Hein, il suffit d'aller dans les Alpes pour voir effectivement comment vont les glaciers. Mais ce qu'affirment les climato-sceptiques, mais ils se basent sur des données scientifiques, c'est que ce réchauffement s'est arrêté. Autrement dit, nous sommes à un palier plutôt qu'à une courbe ascendante de ces températures.
Que notre ami Gérondeau rappelle qu'autrefois le Groenland, oui. Le pays vert, est maintenant recouvert de glaciers. Il y a des cycles.
Il y a eu un refroidissement brutal après la conquête du Groenland, et ce refroidissement a beaucoup touché l'Islande, et les colonies islandaises au Groenland ont disparu. Et puis en ce qui concerne les bénéfices, au moins pour l'Europe, peut-être pas pour le Sahel, mais le XIIIe siècle, hein, c'est-à-dire le siècle globalement des cathédrales, a été un siècle de réchauffement climatique. Ça a été plutôt positif.
Si nous pouvions construire des cathédrales aujourd'hui, et des véritables cathédrales, la France aurait peut-être besoin de cathédrales.
En tout état de cause, il y a un moyen quand même de lutter contre le CO2, si tant est que le CO2 soit responsable de ce réchauffement.
C'est d'éviter les flatulences des vaches.
C'est le méthane. C'est plus le CO2, c'est le méthane. Non, mais c'est le reboisement.
Bien sûr.
Très sérieusement.
Bien sûr. Mais la France replante plus de bois qu'elle n'en consomme.
Tout à fait. Oui, mais je trouve que c'est excellent.
La forêt française est sous-exploitée, paraît-il.
Oui,
absolument. Bénédicte, quelques interrogations, et puis
je voulais simplement ajouter une seule chose qui était assez amusante, et je le tiens d'ailleurs de Bruno Gollnisch, qui à cette époque, il y a quelques années, m'avait donné le nom que j'ai oublié, d'un scientifique américain qui, en 1975, avait prédit le refroidissement inéluctable de la planète. Et que 20 ans après, c'est le même qui sans doute est allé au GIEC ensuite, hein, qui a été un chaud partisan, n'a pas du réchauffement planétaire. C'est dommage,
j'ai oublié le nom aussi, mais je revois la couverture de Time Magazine annonçant, il y a 30 ou 40 ans, annonçant une glaciation prochaine.
On a connu aussi les bobos gauchistes qui pleuraient sur les boat people vietnamiens alors qu'ils avaient contribué à armer le Viet Cong.
Bien sûr.
Mais enfin, on connaît effectivement ces évolutions. Bénédicte, quelques questions?
Oui, une question pour M. Gollnisch. Monsieur, dans une démocratie, comment peut-on espérer que les dirigeants montent quand vous regardez nos politiques élus au premier niveau de l'État et même de votre parti? Comment trouvez-vous de l'espoir?
Ben, écoutez, la démocratie est un système très imparfait, mais je dirais, à ce moment-là, il faut prendre le pouvoir par d'autres moyens, et par conséquent, je suggère à la personne qui pose la question de préparer un coup d'État militaire. Ça a été tenté, hein. Moi j'ai connu le putsch contre le général de Gaulle, par exemple, mais on peut pas dire que ça a été couronné de succès.
Un auditeur, ne pensez-vous pas que s'il y a une trop importante immigration vers l'Europe pour une cause climatique, les gouvernants pourront refuser ces gens-là, faute de moyens?
On voit déjà la politique absolument, la politique de gribouille d'un certain nombre de dirigeants européens, et en particulier de Mme Merkel, qui annonce qu'elle va en accueillir 800 000, aussitôt ça se sait. On arrive de partout, et puis tout d'un coup, elle réalise à quel point c'est dramatique et elle veut arrêter.
Enfin, il est certain que certains hommes politiques, plus clairvoyants que d'autres, appelaient à une coopération avec les pays d'émigration pour fixer dans leur pays, ces populations, et le cas échéant même pour développer des relations économiques avec ces pays lorsqu'ils étaient dans des pays d'influence française. Nous avions une certaine responsabilité à l'égard en particulier de pays d'Afrique. Et tout cela est resté lettre morte, et on en voit les résultats. Et puis même, pire, on a contribué même à appauvrir ces pays en extrayant de ces pays les meilleurs éléments qui auraient dû contribuer en réalité à l'enrichissement de ces pays. Alors, chers amis auditeurs, avant de donner la parole à mes trois invités pour la conclusion finale, je vais vous donner connaissance de quelques ouvrages que j'ai reçus et qui méritent, me semble-t-il, votre attention. Nous allons commencer par la poésie. Daniel Ancelet vient de publier un recueil de poèmes qui s'intitule « Des baisers dans la nuit ».
Le titre est alléchant.
Le titre est alléchant.
Si j'ose au sens littéral du terme.
C'est paru aux éditions, aux excellentes éditions de poésie, les éditions Thierry Saja. Je précise que Daniel Ancelet est président du prix de poésie du Cercle Renaissance et que Thierry Saja lui-même qui est l'éditeur, a été lui-même lauréat de ce prix Renaissance de poésie. Et puis, notre excellent ami, je le redis à nouveau, mais j'y consacrerai certainement une émission en compagnie de Philippe Pichot-Bravard, notre excellent ami Jean-Paul Clément vient de publier un monumental Charles X. Charles X, le dernier Bourbon, paru chez Perrin, avec le concours de Daniel de Montplaisir. C'est un ouvrage que vous pouvez vous procurer au prix de 26 euros. C'est une somme, puisque cet ouvrage compte 565 pages, Charles X, le dernier Bourbon.
Un homme avec lequel on se montre très injuste.
Absolument. Joseph Guillemin.
Oui, certainement.
Joseph Guillemin, Guillermin, G-U-I-2-L-E-R-M-I-N, vient de publier aux éditions Parthénon un ouvrage qui s'intitule « Martyrs sur la côte d'Azur ». Le sous-titre est « La première invasion musulmane ». Joseph Guillermin, qui était un prêtre, a vécu de 1845 à 1902 et il était l'aumônier de l'école des Ursulines de Jésus au couvent des Platanes à Saint-Tropez. Joseph Guillermin, martyr sur la côte d'Azur, la première invasion musulmane, édition Parthénon. Et puis, aux éditions Via Romana, vient d'être publié par David Gaillardon, Gaillardon, G-A-I-2-L-A-R-D-O-N, La nuit de Blankenfeld, aux éditions Via Romana, un ouvrage que je n'ai pas encore lu, qui compte 112 pages, au prix de 17 euros. C'est un roman. Et puis, j'insiste, chers amis auditeurs, et cela vous paraîtra certainement bien légitime, j'insiste sur la parution du dernier ouvrage de Roger Hollande, paru aux éditions d'Heligoland. Heligoland, vous savez, ce sont ces îles un petit peu en mer Baltique, Heligoland, au nord du Danemark. Heligoland, les éditions d'Heligoland. Roger Hollande, 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnies, ça suffit, point d'exclamation. C'est une somme, c'est un cri de gueule, un coup de gueule de la... Ça n'étonnera pas ceux qui connaissent Roger Hollande, mais c'est un coup de gueule parfaitement justifié sur les errements les responsabilités politiques évoquées à juste titre à l'instant par Bruno Gollnisch, André Pertusio et André Bozokhov, en regard de cette veulerie que nous avons constatée de la part de nos gouvernants depuis bien des années. Et ce prix Renaissance sera remis à Roger Hollande le 9 février prochain par le révérend père Argouarche. Voici donc, chers amis auditeurs, je vais maintenant donner la parole à mes invités en, posant quelques, en lisant quelques messages en même temps des auditeurs. Un auditeur, Zemmour licencié, M. Gollnisch insulté, voilà ce que c'est que d'avoir des femmes à des postes importants. Dites un auditeur particulièrement misogyne, ce que nous, nous saurions admettre.
Je n'ai jamais été insulté par Marine Le Pen, si c'est ça qu'elle... Nous avons eu des différends et des divergences d'appréciation relativement, notamment, au traitement de Jean-Marie Le Pen, entre autres.
Bon, ben, nous avons connu des femmes admirables comme Marie-France Tirebois, comme
mon point de vue.
Bien d'autres.
Maintenant, je conseille à cet auditeur de relire les mémoires adressées au dauphin de Louis XIV. Oui. Sur le rôle des femmes en politique. Il trouvera sans doute plus misogyne encore que lui.
Oui.
Et alors, je pourrais vous les citer de mémoire, mais je pense que ça me vaudrait l'hostilité de beaucoup de dames.
Alors, un auditeur qui ne manque pas de sel, mais nous connaissons la culture, la grande culture et le côté facétieux parfois des auditeurs de Radio Courtoisie, dit ceci. Outre des raisons de haine religieuse, les États-Uniens, États-Unis entre guillemets, haïssent la France parce que leur roi Louis XVI avec son armée et sa flotte a permis la naissance de leur pays. Et cela, ils ne peuvent pas nous le pardonner. André Bozokhov, qu'en pensez-vous ?
Je ne suis pas d'accord. Ça demande beaucoup de développement. Oui. Et oui. La façon dont ils ont accueilli l'Hermione montre qu'au contraire, ils en gardent un souvenir plutôt positif.
Je crois que le peuple américain aime la France et les Français aiment les Américains et ils n'ont pas de raison de les détester. Le problème est politique, c'est la volonté hégémonique.
Pour André Pertusio, un chiffre qui va rassurer André Pertusio.
Oui.
Une auditrice de Radio Courtoisie nous dit que les réfugiés climatiques seraient pour l'avenir de 238 millions de personnes.
Ben voyons.
Welcome.
Pourquoi pas.
Ouvrez les portes.
Si vous dites welcome, non, au micro de Radio Courtoisie, vous risquez d'avoir quelques problèmes.
Je n'étais pas certain du chiffre, mais c'est bien le chiffre que j'avais plus ou moins dans la tête.
Je mets un euro dans le petit cochon.
Je voudrais simplement ajouter un petit quelque chose à propos des Américains. Parce que j'étais présent sur la place de la Concorde le 21 janvier pour le 200e anniversaire de la mort de Louis XVI. Et il y avait entre les deux statues, une place de Nantes et de Brest, là où se trouvait la guillotine, une espèce d'hôtel où il y avait des milliers de gerbes, etc. Et l'ambassadeur des États-Unis est venu lui-même en personne apporter sa gerbe et s'incliner.
C'est un beau geste.
Alors, c'était un très beau geste, ce qui prouve que quand même, les Américains n'ont pas oublié ce geste, qui d'ailleurs n'a pas fait nécessairement la fortune de la France.
C'est vrai.
Non, parce qu'il est certain que l'intervention aux États-Unis a détruit pratiquement, on n'a pas les finances publiques françaises, et que deuxièmement, elle a habitué le peuple français à, parce que le roi a quand même soutenu des rebelles à leur roi, ce qui était quand même assez extraordinaire de la part de la plus vieille des monarchies, et en plus, donner en quelque sorte reconnaissant qu'on pouvait être républicain, qu'on pouvait être anti-monarchie, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, n'a pas, là-dedans, qui ont joué
en défaveur,
et en défaveur, n'a pas, de la France et de la monarchie.
Tout à fait.
Alors, nous approchons de la fin et je vais demander... nous allons lire quelques messages pour que vous ayez connaissance des réactions des auditeurs. Et je demanderai à Bruno Gollnisch de conclure. Alors, Bénédicte, nous avons un certain nombre de messages.
Oui,
en ce qui concerne les éoliennes, cela n'a rien à voir avec les moulins à vent, car il faut, pour les maintenir, 1,5 tonne de béton dans le sol par éolienne.
Oui, bien sûr, nous sommes là.
Ensuite, un auditeur, Marcel Boiteux, président d'EDF, ancien président d'EDF, a fait un rapport dénonçant l'imposture éolienne il y a déjà longtemps. Je rêve que 50 millions de Français vous écoutent. Une auditrice, on ne dit jamais que les champs d'éoliennes, c'est de la peine perdue, car on ne pourra plus cultiver au-dessus des murs de béton. C'est pire que le mur de l'Atlantique. Un auditeur, le pôle magnétique nord s'est déplacé de plusieurs dizaines de kilomètres, donc la Terre bouge. Il faut en tenir compte pour tous ces changements et ceux à venir.
Bien sûr, c'est peut-être un des facteurs, selon...
Alors, il y a encore d'autres interventions. En plus, les plantes se régalent quand la proportion de gaz carbonique augmente, c'est leur plat de résistance.
Oui, ce sont les grandes forêts du Jurassique.
Alors ensuite, là, il y a une contestation. Non, une éolienne ne tourne pas 23% du temps, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure, reprenant d'ailleurs des travaux de Jean-Louis Butré. Vous dites de gros mensonges, messieurs. Dans la vraie vie, une éolienne tourne 80% du temps. Ça, c'est ahurissant.
Oui, mais 23% de la puissance nominale, c'est vous qui avez raison. Parce que si je prends une voiture qui peut faire du 120 et que je la déplace à 20 km/h, eh bien, je ne ferai que le sixième de la distance. Donc, elle peut tourner très lentement 80% du temps. Mais la puissance d'une éolienne de 2 MW, c'est 23% multiplié par 2 MW. Donc, en fait, c'est vous qui aviez raison.
Voilà.
Et puis, un peu moi aussi.
Alors, mon cher Bruno Gollnisch, il nous reste 2 minutes. C'est vous qui avez l'honneur de la conclusion.
Ben, j'en suis...
À l'aube de cette COP21, et sur ce sujet très étendu,
écoutez, je
tour d'horizon géopolitique.
Je suis à l'évidence de tous les invités ici, le moins compétent. Alors, je suis un petit peu gêné. Enfin, ce que je souhaite, c'est... Naturellement.
Vous dites que vous êtes le moins compétent, vous faites allusion aux flatulences des vaches, je pense.
Non. Voilà. Voilà. Oh, humour un peu scatologique de notre capitaine des missions, comme l'on dit à Radio Courtoisie. Non, ce que je souhaiterais, c'est que la diplomatie française manifeste une certaine indépendance. Ceci étant, le fait, après tout, que cette conférence internationale ait lieu à Paris, c'est pas forcément une mauvaise chose en
côté
soi.
Club, le côté club.
Non, mais pas forcément. Mais comme vous l'avez dit au début, il se peut que ces chefs d'État, de gouvernement décident aussi de profiter de la circonstance pour traiter d'autres problèmes et peut-être de faire avancer les solutions, je n'y crois pas trop, mais enfin dans certains domaines, des solutions pacifiques, après tout. Il ne manque pas dans le monde d'occasions de conflit, malheureusement, latents ou avérés, et peut-être que cette grande conférence internationale pourra être l'occasion de traiter de cela et d'autres choses. Voilà, je ne... formule pas beaucoup d'espoir. Je crois que c'est aussi l'opinion qui a été exprimée ici en ce qui concerne l'impact de la conférence elle-même sur le réchauffement climatique, puisqu'elle est basée sur ce dogme que tout dépend des émissions de gaz carbonique, qui est un dogme qui est controversé. Je voudrais vraiment avoir le mot de la fin, parce que je feuilletais,
oui, vous avez
tout
une
en
minute.
Vous écoutant, je feuilletais
cet ouvrage de Daniel Ancelet.
De Daniel Ancelet, ce recueil de poèmes qui me paraissent des poèmes tout à fait intéressants et charmants pour certains d'entre eux et percutants pour d'autres, Des baisers dans la nuit. Et je tombe sur un poème très court de 4 vers qui s'appelle Écologie. On ne fait pas appel en vain à mon sens de l'écologie. Je vous le dis en poésie, pour sauver l'eau, je bois du vin.
Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et ce sera peut-être la meilleure façon d'arrêter les déplacements de migrants, peut-être, parce que...
Mais enfin, voilà.
Ils ne boivent pas de vin.
Ils ne boivent pas de vin, absolument. Eh bien, chers amis auditeurs, j'aurai grand plaisir à vous retrouver au début du mois de décembre. Et mon invité devrait être à ce moment-là Madame l'ambassadeur de la Fédération de Russie auprès de l'UNESCO. Je vous remercie et je vous souhaite un bon mois de novembre.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Michel de Rostolan, assisté de Bénédicte, diffusé en direct lundi 9 novembre 2015, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, mardi 10 dans la nuit, de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.